Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Didier Réau, adjoint à la mairie de Marseille, vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, délégué aux finances et président du parc national des Calanques. Bonjour Didier Réau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Il sera question dans cette émission d'élections européennes, bien entendu, de votre parti, les Républicains, de sa tête de liste, mais aussi d'enjeux locaux, les municipales, la multiplication des candidatures à Marseille, sans oublier, bien entendu, un petit chouïa du parc national des Calanques. Mais auparavant, Didier Réau, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Alors que l'abstention menace l'écosystème électoral et fait peser le risque de dépeupler les isoloirs, au moment où le vieux monde politique vacille sous les assauts dégagistes, macronistes ou populistes, quand, comme de nombreuses espèces, le département des Bouches-du-Rhône, vénérable institution plus que séculaire, s'apprête à disparaître, à l'heure où, à Marseille, l'interminable ère Gaudin s'effondre avec fracas, à l'instant où le climat social de colère rouge écarlate en révolte jaune vive ne cesse de s'échauffer, Didier Réau, vous étiez l'invité incontournable pour cette nouvelle grande tchatch. Car président du parc national des Calanques depuis 2013, reconduit en mars dernier pour les 6 prochaines années, la protection de la flore et de la faune est en effet votre spécialité. C'est un grand rapace politique formé chez les paras, ayant fait ses classes à l'extrême droite avant de s'assagir chez les libéraux avec Alain Madelin, qui vous prend sous son aile. Nous sommes en 92. Vous n'avez alors que 25 ans, avec en poche des diplômes en sciences politiques et en marketing. Le fameux oiseau qui vous entraîne dans le combat politique se nomme Guy Tessier. Élu député, il vous choisit aussitôt comme assistant parlementaire. C'est toujours lui qui, pour vos 33 ans, en 2004, vous passe le flambeau en parrainant votre première candidature au Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le canton marseillais de Mazargues. Et c'est encore lui, en 2008, qui vous nomme premier adjoint dans sa mairie de secteur. Une promotion qui vous vaut aussi depuis lors en mairie centrale auprès de Jean-Claude Gaudin la fonction de conseiller municipal, délégué à la mer, au nautisme et aux plages. Mais c'est un autre grand fauve politique collectionnant les mandats comme les parcs nationaux alignent les réglementations qui, en 2015, vous offre un poste clé. J'ai nommé Martine Vassal, présidente du CD13, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence et probable candidate au prochain municipal pour présider Marseille. Elle vous a ainsi confié la vice-présidence aux finances, sans oublier une délégation incluant l'environnement. L'homme du budget, c'est donc vous. Mais concluons, car l'heure est grave. La droite marseillaise saura-t-elle préserver l'exceptionnel espace naturel où elle s'épanouit depuis un quart de siècle? Ces différentes familles sauront-elles s'unir ou, emportées par de sauvages pulsions, vont-elles s'entre-déchirer en se disputant un territoire très convoité par des espèces exogames? Didier Réau, il va falloir réagir. Toute une précieuse biodiversité est menacée.
Didier Réau, un commentaire à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Eh bien, je dirais que c'est la diversité et la force de la diversité qui fait la qualité de l'équipe que vous avez qualifiée d'ancienne, de rétrograde, mais qui a prouvé que sur Marseille depuis 25 ans, on avait su gérer les personnalités, gérer les diversités d'esprit et d'idées, et que finalement cette ville a avancé depuis 25 ans.
On aura l'occasion, bien entendu,
dans cette même ligne avec Martine
on aura l'occasion de revenir un petit peu à ce portrait, à cette galerie de personnalités qui vont faire l'actualité dans quelques mois. Didier Réau, une campagne qui a du mal à intéresser les Français, je veux parler des européennes, beaucoup de listes, 34 et un mano à mano entre pour aller très vite, les nationalistes du Rassemblement National et les progressistes de la République en marche, oui voilà. Les Républicains dont vous êtes membres sont accrédités de 14% à peu près. L'effet François-Xavier Bellamy, même s'il existe un petit peu, semble avoir des limites, non?
Oui, il a effectivement des limites, mais on partait de loin, hein, si je puis dire, puisqu'on était entre 8 et 10 lorsqu'il a été choisi par le parti pour diriger cette liste. Et donc, arriver aujourd'hui à 14, 15, 13 selon les sondages, c'est déjà une gageure qui a été réussie. François-Xavier Bellamy, il est jeune, il a une réflexion qui est intéressante, qui n'est pas partagée forcément par tous les Républicains et par tous ceux qui sont associés aux Républicains, mais en tout cas, il porte une voix qui est celle de la droite, décomplexée, sans aucun problème, et qui aujourd'hui refonde ce qu'il fallait refonder après l'échec des présidentielles de 2017.
Elle vous va bien, cette voix? C'est quand même, alors il est catholique conservateur, opposé à l'IVG, Versaillais, cofondateur de Sens Commun, hein, qui était dans la manif pour tous au départ, y compris dans vos rangs. Le choix de ce candidat a fait débat, hein, y compris des grands classiques du parti, des Républicains, de la droite, peut-être plus libérale.
Oui, moi, au moment où il avait été choisi, j'avais exprimé une réserve, notamment sur ses positions anciennes sur l'IVG. Je trouvais que ce n'était pas forcément la meilleure candidature. En tout cas, c'est notre candidat maintenant. Il y a une logique de parti. On suit ce candidat. Effectivement, si on avait pu choisir un candidat plus libéral, moi, vous savez que j'ai soutenu Alain Juppé au présidentiel, ça m'aurait plus convenu. Maintenant, je trouve qu'il se bonifie au fur et à mesure de la campagne et qu'il faut l'accompagner encore plus fortement ces derniers jours.
Alors justement, vous avez prononcé le mot de Juppé, mais Nathalie Loiseau, juppéiste, hein, qui a commencé à ses côtés, Édouard Philippe, juppéiste. Enfin, ce macronisme vous marche quand même sur les plates-bandes. Est-ce que vous n'êtes pas coincé entre l'extrême droite et ces marcheurs qui reprennent quand même une grande partie de votre logiciel?
Alors, pour le libéral que je suis, je ne suis jamais coincé, car je me considère libre et que j'exprime mes positions telles qu'elles sont dans mon parti. Et il y a une aile libérale qui reste fidèle au parti Les Républicains. Que certains amis d'Alain Juppé soient partis dans La République En Marche, très bien. Qu'ils y soient associés, très bien, c'est leur choix. C'est pas le mien, c'est pas celui d'un certain nombre de libéraux qui nous accompagnaient dans cette campagne pour Alain Juppé. Moi, libre, Les Républicains, je suis dans cette logique de parti et je défends la liberté, ce qui n'est pas la principale valeur défendue de mon parti, je le regrette.
Alors, on a quand même l'impression, comme disait Michel Garraud tout à l'heure, que idéologiquement vous êtes un petit peu asséché quand même, entre le Rassemblement National qui occupe le terrain de l'identité et celui de l'économie qui est clairement identifié avec La République En Marche. Qu'est-ce qui vous reste?
Enfin, l'économie, elle est de moins en moins identifiée dans La République En Marche, parce que je trouve que en fonction des promesses qui avaient été faites en 2017 par le candidat Macron et que certains ont pu croire, je trouve que depuis deux ans, sur la politique économique et sur la libéralisation d'un certain nombre de secteurs, on est un peu en recul par rapport aux promesses Macron. Et donc, c'est pour ça que je garde cet état d'esprit d'un libéral de droite assumé sans aucun problème.
Et comment vous expliquez qu'il arrive encore à séduire le président Macron ?
Il arrive à séduire parce que finalement, dans le peu de participation qu'il y aura dans cette campagne européenne, il garde finalement son socle et que toute sa campagne a été faite sur le négatif avec le Front National. Le seul recours au Front National, c'est Macron, selon lui. Moi, je pense qu'il y a un autre recours qui est celui des Républicains. Il faut absolument aller voter dimanche et aller voter Républicain.
L'extrême droite en tête, peut-être, on verra, hein, les sondages, il faut s'en méfier, mais en tout cas, forte, et pas seulement en France, un peu partout en Europe. Ça vous inquiète, la force de ce mouvement-là, de cette tendance-là, et qui est européenne?
Bon, d'abord, c'est une tendance lourde depuis des années dans notre pays, en Europe, évidemment. Ça m'inquiète, oui, parce que je trouve que le nationalisme, la partie de droite très conservatrice que représente le Rassemblement National, va à l'encontre des idées de liberté que je me fais pour ce pays et pour notre continent européen. Donc oui, ça m'inquiète et je trouve que certaines thèses qui sont défendues ne sont pas acceptables, effectivement.
D'accord. Alors Marion Maréchal Le Pen, figure de l'extrême droite, un peu en retranchement, mais pas trop, et puis qu'on a bien connu dans la région, elle a de la sympathie pour votre candidat Bellamy, elle l'a dit, on les a vus il y a longtemps côte à côte dans certaines réunions. La porosité entre la droite républicaine et l'extrême droite, c'est pour vous une menace, c'est pour vous un non-sujet, votre avis?
Moi, je ne souhaite pas la porosité, je souhaite la clarté. La clarté des idées. Je pense que notre parti doit avoir cette capacité à annoncer sa clarté des idées. Et je pense que, honnêtement, il ne profite pas assez de cette idée de liberté, de cette idée du libéralisme français qui a été créé dans les années 1850 avec un certain nombre de penseurs. Et je pense que notre parti ne s'appuie pas assez sur les fondements qui font notre engagement politique.
Votre slogan durant cette campagne, c'est « Fonder l'Europe, rétablir la France ». Tout le monde envie de refonder l'Europe. Rétablir la France, ça veut dire quoi?
Moi, je pense que rétablir la France, c'est effectivement être en capacité d'aligner tous les conseils, les bonnes manières que dispense l'Europe dans les discours, mais qu'elle ne la France dans les discours, mais pas dans les faits. Je veux dire, quand on donne des conseils de gestion à d'autres pays européens et que nous, on respecte pas les règles qu'on s'est fixées dans le cadre européen, ça pose un vrai problème. Le déficit budgétaire, on est un des derniers pays à être au-delà des 3%. Alors vous allez me dire, c'est une règle qui a été fixée, mais on y a participé et on a demandé à ce que ça soit le cas. Et on ne le respecte pas. Et au contraire, on continue à accentuer la dérive budgétaire. Et ainsi de suite sur un certain nombre de processus politiques.
Ça veut dire reprendre un peu une part de souveraineté à l'Europe, c'est ça ?
Non, moi je pense qu'il faut que nous continuions à construire l'Europe hein, et dans une idée de liberté, de libre concurrence. Mais pour arriver à faire ça, on a créé une monnaie européenne et nous, on trouve que cette monnaie européenne, avec les critères qui ont été associés à cette monnaie, c'est trop compliqué. Mais c'est nous qui avons décidé, la France, avec d'autres pays fondateurs, de créer et l'Europe, et la monnaie, et les règles budgétaires qui vont avec. Il faut aligner les discours et les faits. C'est pas le cas depuis des années, c'était bien avant Macron, bien avant Hollande, et c'est encore pas le cas aujourd'hui avec Macron.
Mais en même temps, on arrive, cette échéance électorale arrive dans un contexte qui est un petit peu agité, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette campagne, sur les Français, leurs inquiétudes, les mouvements sociaux qui s'enchaînent ?
Je pense qu'aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre ce que peut apporter l'Europe, parce qu'on leur explique pas, ou on leur explique mal, ce qu'elle peut apporter. Et que les campagnes électorales, quelles qu'elles soient, aujourd'hui et par le passé, sont toujours fondées sur des considérations nationales, dans une campagne européenne, alors qu'elle devrait l'être sur le fonctionnement de l'Europe. Est-ce qu'on peut créer et quelle est la philosophie de l'Europe et quels sont les moyens que peut apporter l'Europe à, je dirais, une meilleure qualité de vie, à une qualité de vie économique dans notre pays qui soit meilleure.
Les Gilets jaunes, c'était le dernier mouvement social, vraiment un climat insurrectionnel, et puis approuvé par beaucoup de Français, du moins un temps. Et là, on a l'impression, pas de traduction politique, pas de liste ou très marginale, et un taux d'abstention à nouveau annoncé très élevé. On est samedi, là, au moment où les auditeurs écoutent l'émission. On s'attend à ce que les urnes dimanche soient pas très fréquentées. Et que ce mouvement, il trouve une traduction politique. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ces gens-là ?
D'abord, le mouvement des Gilets jaunes, dès le départ, s'est fondé sur un excès d'impôts et de taxes. Enfin, de taxes d'abord, et puis d'impôts. Le corollaire, c'est que finalement, quand on paye des impôts et des taxes, on souhaite avoir un service public qui tourne bien. Et finalement, c'était pas ce que ressentaient les Gilets jaunes. Alors, ça a été sans doute au fur et à mesure du mouvement mal coordonné, mal exprimé. Et je pense que la réponse qui a été apportée par l'État, par le président Macron et le gouvernement, a été trop tardive. Et elle a été mal structurée. Je pense que la réponse responsable aurait été de dire « Vous voulez des baisses de taxes et d'impôts ?» Ça répondait à la promesse de Macron d'ailleurs. Mais alors à ce moment-là, il faudra s'engager sur une baisse des dépenses publiques. Où est-ce qu'on trouve les économies pour vous baisser les taxes et les impôts ?
Alors, sur ces dossiers européens et nationaux. L'urgence écologique, ça va vous parler, ça doit vous parler, j'imagine. Beaucoup de partis mettent ça au centre de la campagne et le mouvement de Macron en particulier, hein, ils jouent énormément cette carte. Ils ont débauché des militants verts sur leur liste. Il y a aussi en Europe une liste écologiste. Les insoumis même parlent beaucoup d'écologie. LR, on les entend un peu moins. Vous regrettez que votre camp soit peut-être pas en première ligne sur ce dossier ?
Oui, je le regrette parce que je pense qu'on a, contrairement à ce qu'on croit, l'écologie et l'esprit libéral vont ensemble. C'est un esprit de responsabilité et c'est un esprit qui respecte la diversité. Et la biodiversité fait partie de la biodiversité.
Expliquez-nous avec plus de détails quand même. L'esprit écologique et l'esprit libéral, ça va ensemble.
Bien sûr.
Donnez-nous des détails, ça va intéresser les auditeurs.
Mais bien entendu, parce que en fait, quand vous parlez libéral, libéral, effectivement, vous pensez tout de suite capitalisme financier. Ça n'a strictement rien à voir. À force de...
C'est pas le colcause quand même, votre idéal.
Non, c'est pas le colcause, mais le capitalisme financier n'est pas le libéralisme, très clairement. Et donc, on a souvent confondu et beaucoup contribue à faire confondre cet esprit en disant « Regardez les salauds de libéraux, regardez les salauds de capitalistes, parce que finalement, ils se sont... agglomérés avec un système financier mondial et qui fait que ça nous appauvrit. Le libéralisme, c'est la responsabilité de chacun. C'est la liberté donnée à chacun d'entreprendre comme il le souhaite. Et pas de rentrer dans un conglomérat, de rentrer dans des monopoles finalement qui sont sous couvert de quelques marchés distribués et qui ne correspondent pas au libéralisme. Voilà, je vous le dis.
Il est crédible, Emmanuel Macron, qui fait campagne pour les européennes en disant l'écologie, ça doit être vraiment notre priorité en Europe. Ça va être ma priorité sur ma deuxième partie de mandat. Son ministre, Nicolas Hulot, a quitté de façon assez fracassante le gouvernement. Et vous-même, on va venir sur le parc national. Vous avez peut-être quelques inquiétudes aussi sur la politique de l'État en matière de protection de l'environnement.
Bah là encore, discours et réalité. Discours et acte, ce n'est pas en corrélation dans le discours de Macron, dans la pratique de Macron. Aujourd'hui, on nous dit l'écologie, l'énergie, la biodiversité, etc. J'en fais ma priorité. Mais finalement, par les années, c'est-à-dire depuis 2 ans, 3 ans presque, on a, à chaque fois que le budget est élaboré, une baisse ou une restriction des crédits qui sont accordés au ministère de l'écologie, et notamment sur la gestion des espaces naturels qui doivent être une solution pour justement la lutte contre le changement climatique. Et ce n'est pas assez dit. Et j'aimerais en parler un peu plus longtemps.
D'accord. Vous avez aussi des inquiétudes, ce fameux décret gouvernemental qui transférerait la compétence de délivrance d'autorisation des travaux dans des sites classés au ministre du ministre de l'État au préfet. Et ce décret est toujours une hypothèse ou les doutes ou les inquiétudes sont levées à ce jour?
Alors, c'est un décret qui, effectivement, transfère la compétence et la décision d'autorisation environnementale du ministère de l'Écologie sur avis du Conseil national de protection de la nature au préfet dans les départements. Ça pose un vrai souci parce que sur 2600 sites classés et 4500 sites inscrits, on devait passer par un Conseil national de protection de la nature qui a lit scientifique, associatif, politique, pour évaluer les impacts que peuvent avoir certains travaux sur des espaces naturels. Si on abaisse le niveau de la garde au niveau des préfets, on aura des pressions qui seront locales, beaucoup plus importantes. Et je mets là-dedans les élus locaux, les entreprises, tous ceux qui sont des porteurs de projets, qui sont en relation directe avec les préfets et qui peuvent avoir effectivement des moyens, j'allais dire, persuasifs de faire avancer un certain nombre de dossiers. Donc oui, c'est un recul et ça, c'est une mauvaise nouvelle qui est enclenchée par le gouvernement.
Vous ne souhaitez pas les pressions locales, vous avez peur des pressions internationales, des pressions entre guillemets, puisque l'UNESCO, vous y avancez, mais ça vous fait un peu peur, l'inscription à l'UNESCO ?
L'inscription à l'UNESCO, j'ai pas de peur, c'est que...
Vous n'avez pas couru vers cette annonce ?
Non, je cours pas là-dessus. D'abord, c'est un dossier qui est long à mettre en place. Et deuxièmement, ça ne correspond pas au cœur de métier d'un parc national. Un parc national, le cœur de métier, c'est la protection de la nature et de la biodiversité. Son corollaire, c'est que, justement, on doit avoir une gestion de la surfréquentation du public. Un label UNESCO rajoute encore une visibilité plus importante et une publicité plus importante sur un espace naturel qui doit être protégé.
Pour vivre heureux, vivons cachés ?
Non, pour vivre heureux, vivons ce qu'on est. C'est-à-dire, nous sommes un parc national, nous en sommes fiers, mais l'UNESCO est une visibilité publique encore plus importante et avec des contraintes encore plus importantes sur la qualification de l'espace naturel. Donc non, ça ne correspond pas à notre engagement sur un parc national. Puis vous savez, un parc national, c'est déjà difficile à gérer. Il est jeune, il a 6 ans. Donc une candidature à l'UNESCO, c'est rajouter un vrai travail à monter et nous n'avons pas les équipes nécessaires pour le faire.
Je reviens sur l'histoire des préfets. Est-ce à dire que Pierre Dartout, le préfet de région, est une menace pour le parc des Calanques ?
Oh non, mais je ne suis pas un homme en particulier. Un préfet, il a des relations, évidemment, dans son département, et c'est normal, avec les acteurs économiques, avec les acteurs associatifs, avec tous ceux qui s'occupent d'environnement, avec tout ce qui fait la société dans un département. Mais d'abord, il change tous les 2 ans. Donc le transfert des dossiers est toujours difficile à faire. La connaissance de l'histoire d'un dossier est toujours difficile à faire. Et donc, je considère qu'à un moment donné, il faut une continuité. Et qu'en ce qui concerne la biodiversité et la nature, la politique doit être au moins au niveau national, sinon au niveau européen.
Alors,
je vais vous prendre un exemple. Oui, quand on règle les problèmes de qualité d'eau en Méditerranée, on les règle pas sur la bande de 30 mètres sur le littoral méditerranéen. On les règle à partir du Doubs, c'est-à-dire sur l'ensemble des bassins versants du Rhône. Donc vous imaginez bien que les problèmes de biodiversité et de nature, ça doit être au moins au niveau national, sinon au niveau européen.
Alors en même temps, et vous le dites vous-même, au parc national, tout ne va pas pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, et vous faites l'objet d'une pression, hein, je crois que vous l'avez déjà dit, des promoteurs en zone d'adhésion, par exemple, c'est-à-dire la zone périphérique du parc. Et sur votre bilan, le premier mandat, des pressions, il y en a. Je pense par exemple, on peut prendre un dossier sur l'Umini et l'aménagement de l'école de commerce, son extension avec des arbres abattus... qui ce qui a suscité beaucoup d'émotions sur une partie des Marseillais.
Juste auparavant, pour les auditeurs, le parc que vous gérez, dont vous avez la présidence, pardon, c'est un parc inédit au sein d'une métropole de près de 2 millions d'habitants. Donc les problématiques sont extrêmement diverses et variées.
Oui, parce que d'abord, c'est un des trois parcs au monde qui est inclus dans une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Il y a Sydney, il y a le Cap, il y a Marseille, il y a Rio et d'autres parcs. Mais enfin, les trois principaux sont les premiers. Heureusement que nous avons créé le parc. Parce que sinon, on n'aurait pas ce cœur de parc qui est sur les limites du site classé. Et nous n'aurions pas ce maximum de protection pour la nature et la biodiversité. La zone d'adhésion dans les communes, c'est destiné à faire que les communes progressent sur ces territoires à travers les PLU et toutes les prescriptions qu'ils peuvent donner vers l'excellence du cœur de parc. Mais c'est fait pour prendre un certain temps. Sur l'histoire de Kedge, effectivement, c'est en zone d'adhésion. Effectivement, c'est aussi sur le campus de Lumini dont on a voulu faire un campus de renommée mondiale. Et donc, pour faire ça, il faut effectivement pouvoir développer un certain nombre de labos, un certain nombre d'écoles, un certain nombre de sites universitaires. Et Kedge en fait partie. L'extension de Kedge a été effectivement polémique. Et j'assume mes propos et je les maintiens. Je pense qu'on ne peut pas vouloir un campus international et limiter son développement. À ce moment-là, il ne fallait pas faire le campus. Il fallait pas vouloir son développement en 2008. Le plan campus a dit, voilà, il faut qu'on ait des capacités de progresser sur ce site en termes universitaires pour être plus attractif. Donc on essaye de compenser. Et la compensation, c'est que le grand parking qui se situe autour de Kedge, je vais peut-être un peu technique, c'est qu'il redevienne en milieu naturel, parce que celui-ci, il est juste en limite de cœur de parc. Après, il faut un travail avec l'université, avec le campus universitaire. Et il faut que l'université, je l'ai dit au président Berland, soit plus allante la notion de cohérence avec le cœur de parc et qu'il y ait une sensibilisation de la communauté universitaire, une prise en compte dans les constructions, dans les extensions de l'espace naturel qui est autour, de façon aussi à donner à l'université une qualification environnementale qui soit meilleure. C'est toute la difficulté d'un parc national. Vous savez, il y a des parcs nationaux en France qui ont plus de 50 ans et ils ont aussi ces problématiques.
Mais certains vont vous qualifier de conciliant quand même, non, en tant que président de...
Mais d'abord, dans un parc national, dans une agglomération de 2 millions d'habitants, vous êtes obligé de prendre en compte les avis des uns et des autres et de prendre en compte les évolutions qui ont déjà commencé avant la création d'un parc national. Et petit à petit, on n'est pas sur une force, parfois on est sur une force de contrainte, mais on est plutôt sur une force de persuasion et de sensibilisation à l'évolution vers la qualité.
Est-ce qu'il est possible que Didier Réaud, par exemple, président du parc des Calanques, aille contre une décision de la mairie ou de l'aglo ou du département en disant ça va, allons compte de l'intérêt de mon parc.
Oui, tout à fait, parce que si par exemple il y avait des impacts sur
ça n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Pas.
Vous n'avez jamais été contre.
Non, mais je me situe encore une fois sur mes compétences, c'est-à-dire que le parc national est entièrement compétent sur le cœur de parc. Sur la zone d'adhésion, ça n'est pas le cas. Je regrette que la zone d'adhésion d'ailleurs ne soit pas inclue parfois dans le cœur de parc. Ça aurait mérité de l'être, notamment par exemple sur les goudes où nous aurions pu revoir les choses différemment. Bon, ça pas été le cas au moment de la création, je n'en suis pas complètement responsable, mais maintenant c'est vrai que sur ce parc national il y a des exigences et je peux vous dire qu'il y a des discussions pas tous les jours mais régulièrement pour limiter un certain nombre de projets.
Alors justement certains considèrent que ce parc qui ressemble peut-être à nouvelle génération plus à un parc régional qu'à un parc national, c'est-à-dire très protégé, est aussi une immense opportunité pour des opérations immobilières en zone d'adhésion, parce que vous le savez, c'est un argument, c'est-à-dire construire un terrain, un projet immobilier en lisière de parc, ça a une plus-value très importante, ce qui donne d'ailleurs l'idée de la valeur de cet espace. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opportunité-là et de cette pression-là, et qu'est-ce que vous faites pour éviter que ça soit le cas ?
Eh bien, par exemple, il faut qu'on ait des moyens pour pouvoir, limiter ce genre de projet. Et par exemple, le plan paysage du parc national est un des éléments qui permet justement de contraindre, ne pas interdire des constructions, mais en tout cas de les contraindre pour être plus en adéquation avec le parc national. C'est compliqué, évidemment. Mais quand je vois le PLU tel qu'il a été présenté par ma collègue Laure-Agnès Carré, sur ces questions-là, quand on arrive à imposer des maintiens de certains terrains en pleine terre au moment de projets immobiliers, c'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Quand on retrouve des des terres agricoles sur les bassins versants de Marseille, c'est aussi une avancée majeure. Et donc, il faut qu'on continue comme ça. C'est aussi comme ça que le parc influe sur les politiques urbanistiques des communes et de la métropole.
Alors, il y a un sujet qui fait débattre. Hein. Vous avez dit que pour votre deuxième mandat, vous allez le prendre à bras-le-corps, mais c'est la question de la place des voitures dans ce parc, avec ce spectacle étonnant de ce balai de voitures qui va jusqu'à Calelongue et des bouchons, etc. Et puis, un truc qui a pu étonner les commentateurs, la métropole investissant 200 000 euros pour aménager à la Pointe Rouge une portion de route, supprimant une piste cyclable, un bout de trottoir pour que les voitures circulent mieux. On est quand même là dans une histoire un peu à la marseillaise, pour du bashing pour nos médias nationaux.
Et ça tombe bien, c'est votre deuxième mandat.
Oui, alors ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir. Au moment où le parc national élabore un plan, ce qu'on appelle d'accessibilité, mais j'aime pas ce terme-là parce qu'il semble donner plus de facilité à aller au parc national, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est de la gestion de l'accès au parc. L'idée, notamment sur le littoral sud, mais ça vaut pour Morgeoux, Sormioux, La Gardiole et Cassis et La Ciotat, bien que Cassis ait fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Il faut que nous ayons une meilleure gestion de l'accès, et notamment en transport en commun et en transport doux, notamment sur le littoral sud. Nous avons, pour faire simple, proposé un plan qui inclut plusieurs solutions, plusieurs capacités de réflexion, qui se monte à peu près une dizaine de millions d'euros, de façon à améliorer le transport en commun, notamment le retournement à Saména, de diminuer la pression des voitures en fond de calanque en interdisant le stationnement sur les espaces naturels. Et donc ça va venir. On a travaillé avec la métropole, on a travaillé avec la ville, on a travaillé avec le département, et on a aussi fait plus d'un an et demi de concertation par petits ateliers, et je pense que tout le monde nous le reconnaîtra, en tout cas on me l'a dit, au moment de l'inauguration justement de la Pointe Rouge, pour dire que ces concertations ont été vraiment des lieux de travail extrêmement importants où l'écoute a été majeure vis-à-vis par le parc national. Et les propositions qui sont faites là-dedans, vous le verrez, sont de nature à améliorer la situation et en tout cas à prendre en compte le fait que nous ne devons plus aller en voiture jusqu'au plus près du site naturel que nous voulons voir.
Oui, mais les décisions, alors là, il y a des propriétaires exaspérés à Anvaux, près de Carpiane, qui ont bloqué une route parce qu'il n'y a pas de parking de l'estage. La discussion, disent-ils, dure depuis 2003. Ce temps-là, on fait des diagnostics pertinents et puis les décisions.
Alors, le 2003, d'abord, le parc national n'était pas créé, puisqu'il a été créé en 2012, qu'il a commencé à être géré véritablement en 2013, et que la volonté d'un parc national tel que celui des Calanques au sein de l'agglomération, c'est pas d'imposer tout de suite des choses qui ne seront pas acceptées. Je veux dire, si on veut avancer, il faut qu'on trouve sinon un consensus, au moins un compromis pour que les choses avancent et progressent. L'accessibilité du parc est un enjeu majeur, je l'ai dit, de mon mandat, celui qui court, et il faut absolument que nous ayons cette capacité à convaincre que la voiture ne doit plus être le moyen exclusif d'accès aux Calanques. Sur la Gardiole, les propriétaires, oui, c'est vrai, ont pris cette décision. Sur le fond, je n'ai rien à redire, je l'ai déjà dit, ça correspond de toute façon à l'orientation que nous souhaitons. C'est vrai que ils ont été plus en avance que la réalisation du parking que le département doit faire sur la Gardiole. Je peux vous dire que dans les prochaines semaines, vous aurez une présentation du plan d'accès au Calanque de Marseille du littoral sud jusqu'à la Gardiole.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Didier Réo, Michel Guéraud.
Quand on gère donc une institution et aussi importante et avec autant de complexité, il faut toujours aller sur le compromis. Je pense à Alteo, les rejets des effluents. Alors il n'y a plus de boue rouge, mais il y a toujours une prolongation, un délai de 6 ans pour les effluents, toujours dans ce joyau. On a du mal, quand on regarde le dossier d'un peu haut, de comprendre que ça, il n'y a pas plus vite sur des enjeux comme ça. Pour vous, c'est un bon compromis ?
C'est un compromis.
Encore une fois, on va vous qualifier de conciliant.
Non, mais je suis dans une responsabilité où le parc national est créé, il a été créé pour trouver des solutions. Si j'écoutais certains, et si Didier Tessier, qui est à l'origine du parc national, écoutait certains, il fallait détourer du cœur de parc les zones à problème. C'est-à-dire l'exutoire de Corsiou, c'est-à-dire Alteo, et en fait ne créer un cœur de parc que là où il n'y avait pas de problème. Or, nous avons conçu le parc national pour résoudre ces problèmes. Alteo s'appelait avant Péchiné. entreprise nationalisée en 81, puis s'est appelé Rio Tinto parce que ça a été racheté. Ces deux entreprises n'ont jamais été contraintes par l'État, péchinées, parce que, bon, à l'époque, dans les années 60-70, on ne se préoccupait pas trop de ça, qu'il y avait la question Cousteau, et que c'était parfait dans le tableau. Et puis qu'en 81, entreprise nationalisée, personne n'est allé les emmerder pour dire, voilà, vous devez faire des efforts. Rio Tinto a racheté, trop content qu'il rachète, on n'est pas allé les emmerder non plus. Et là, en 2010, quand Alteo arrive, effectivement, le parc est en cours de création, on dit, Alteo, toi, par contre, il va falloir que tu le fasses. Bon, d'accord, Alteo a dit, ok, on va essayer d'avancer. Mais il faut que l'État nous aide. Et j'ai dit, mais il faut que l'État contrôle, ce qui n'était pas le cas. Et maintenant, l'État contrôle. Et on a, effectivement...
En même temps, on a eu l'impression que Ségolène Royal était beaucoup plus en pointe que vous, beaucoup plus radical que vous pour défendre...
Oui, mais là, encore une fois, la pointe dans les discours, c'est parfait. Mais quand on est sur site, il ne faut pas regarder trop, vous voyez, de temps en temps. Il faut aussi avoir les mains dans le cambouis et avoir les mains dans les bouts rouges. Et ce n'était pas son cas. Parce que, honnêtement, quand la première proposition a été faite par l'État de renouvellement de la concession d'Alteo, je vais vous dire ce qui était proposé par l'État et donc par le préfet d'alors, avec l'assentiment des services du ministère et du cabinet. C'était un renouvellement de 2 fois 15 ans de la concession. Et avec Madame Milon, qui est maire de Cassis, nous avons bataillé pour faire abaisser ce délai. D'abord à 12, puis ensuite à 6. Donc après, une fois fini le conseil d'administration qui prend cette décision, de prolonger de 6 ans avec quand même des moyens de contrôle, d'information, de transparence que sont le comité de suivi de site qui n'existait pas avant, qui se déroule en préfecture, le comité de surveillance et d'information sur le rejet en mer qui est présidé par Pierre Bateau, et le contrôle de l'Adréal effectif avec ses propres analyses du rejet, eh bien nous arrivons aujourd'hui à des progrès spectaculaires. Sur 7 items, 5 se situent à peu près dans les niveaux exigés par l'État. Nous sommes à 4 ans. Et 2 autres sont en cours de résolution et Alteo fait des investissements importants soutenus par l'agence de l'eau, donc par l'agence de l'État, et c'est normal, c'est dans ses prérogatives. Eh bien, nous avons une entreprise qui aujourd'hui est en cours de résoudre le problème de son rejet, ce qui n'avait pas été fait depuis 50 ans. Est-ce que c'est pas ça finalement de faire accepter un espace naturel dans une agglomération de 2 millions d'habitants sans sacrifier une entreprise qui finalement est performante au niveau mondial? Elle exporte dans le monde entier un produit de qualité et qui aujourd'hui, de par son innovation sur le traitement de son rejet, fait venir des entreprises, écoutez bien, comme Rio Tinto, qui vient voir chez Alteo comment il gère son rejet. Ou des gens qui veulent créer des entreprises d'alumine à l'étranger, qui viennent voir Rio Tinto et des puissances aux États-Unis, aux États du Golfe Persique, qui viennent voir comment Alteo gère son rejet.
On s'éloigne à peine du parc, on l'a dit
dans
le portrait.
Non, on ne s'éloigne pas du parc.
Non, moi maintenant. Puisque on l'a rappelé, vous êtes aussi conseiller municipal délégué à la mer, au nautisme et aux plages. Donc, sur ces dossiers-là, et là aussi des conflits d'usage avec un dossier, par exemple, récurrent, mais qui fait pas mal gloser. Alors que l'été approche, c'est la fermeture nocturne de la plage des Catalans, avec un recours d'usagers qui aimeraient que la plage reste ouverte le soir, voire la nuit. Ils ont gagné, mais la municipalité a aussitôt repris un autre arrêté qui permet de refermer la plage. C'est pas très... Alors, il y a eu la capitale européenne de la culture, on a parlé d'objectifs, d'animer la ville marseillaise, enfin une grande métropole comme Marseille, une plage qui tire le rideau à 20h, c'est bizarre, non?
D'abord, vous rappelez qu'avant 2008, avant qu'on me confie cette délégation, cette plage, elle était fermée, elle était privatisée, exploitée par quelqu'un qui gérait la plage, sans droit ni titre, et qui faisait payer un droit d'entrée. En 2008, lorsque Jean-Claude Godin m'a confié cette délégation, il m'a donné comme premier objectif de réouvrir la plage des Catalans, ce qu'on a fait dans les 3 semaines, gratuitement. Par contre, c'est vrai que la nuit, on a des difficultés sur nos plages, pas que celle-ci, et de Corbière à la Pointe-Rouge, nous avons effectivement des présences qui sont nuisantes pour l'ensemble des riverains. Je parle de barbecue, je parle de concerts jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, je parle de bagarres, je parle de dégradation dans les quartiers autour. La Pointe-Rouge, l'année dernière, a été un des sujets importants de la tranquillité publique. Et c'est vrai que sur les Catalans, puisqu'on ferme à 20 heures depuis 10 ans, nous avons une tranquillité de ce quartier.
Non, mais est-ce que c'est raisonnable? 20 heures, quand on finit de travailler, par exemple, à 18 heures en été, on a envie d'aller affronter les embouteillages et aller plonger un peu. Enfin, ça me paraît logique, non?
20 heures, fermer une plage à 20 heures. Il y avait un sens de la synthèse. Pourquoi ne pas faire un effort, pousser un peu le curseur? C'est facile à sécuriser une plage. Enfin, c'est pas un espace immense.
Les Catalans n'est pas très grande.
Non, si vous voulez, c'est que la plage des Catalans, comme les autres, le poste de secours ferme à 20 heures. Et nous avons là, pour faire l'évacuation, la présence de la police nationale et de la police municipale et du personnel de mairie qui aide à l'évacuation de la plage à 20h. Si nous le faisions à 22h, il faudrait que nous ayons des moyens supplémentaires de la part de l'État, notamment de la police nationale, qui n'est pas en capacité de le faire. Voilà. Et donc nous faisons avec ce que nous avons et nous fermons à 20h. Et je pense que, honnêtement, si vous posez la question aux riverains des Catalans, ils veulent aussi avoir la tranquillité publique et la sérénité publique.
Un libéral, fermer une plage publique, l'interdire au public, ça vous paraît tout
elle
à fait...
Elle n'est pas interdite au public, elle
à
est ouverte.
À partir de 20h, elle est ouverte, interdite au public.
Elle est ouverte toute la journée et elle est fermée la nuit pour assurer la tranquillité publique. Le libéralisme, ce n'est pas le désordre non plus. C'est aussi l'ordre public. Et ça, c'est les droits régaliens de l'État. Et un libéral n'ira jamais contre les droits régaliens de l'État. Et des collectivités publiques quand c'est de leur compétence.
Alors, autre plage, on va en parler un petit peu quand même, puisqu'il y a des choix politiques qui sont faits sur la plage de la Pointe Rouge, par exemple. La vache sacrée de la mairie, c'est la fameuse délégation de services publics qui a encore une fois été dégainée. Officiellement, pour diversifier les activités, apparemment, il y a trop de pizzas et pas assez de transats. Donc, une montée en gamme pour... rendre une plage un peu moins populaire. Vous me regardez en souriant, mais c'est ce que pense la majorité des gens.
Non, je souris parce que vous souriez en disant ça, donc je me permets de le faire. Et moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui me sourit en face de moi, donc je n'ai pas de raison de faire la tranche. Mais voilà.
C'est quoi c'est... Parce qu'on est quand même à la Pointe Rouge, on est dans un quartier... Le fait que les gens viennent avec la cocotte minute, avec des pique-niques, ça dérange cette vision de Marseille que l'on veut désormais.
Mais ça peut toujours être le cas de venir avec son pique-nique sur la plage. Sauf qu'il y a des gens qui souhaitent venir sur une plage et trouver des services autres. Et ne pas venir avec leur pique-nique, mais venir dans un restaurant, venir boire un verre et pouvoir les payer. Et ils souhaitent aussi pouvoir trouver des transats, des jeux pour les enfants, etc. etc. Aujourd'hui, quantité de familles s'en vont à l'extérieur de Marseille et même à l'extérieur du département. Vous connaissez ces plages du Var et ces plages à l'ouest du département qui bénéficient justement de cette clientèle. Et cette clientèle, elle dépense entre 60 et 80 euros par jour, plus le transport occasionné pour aller jusque là-bas, pour finalement favoriser l'activité et la création de richesses et d'emplois sur ces plages, alors qu'à Marseille, on n'en bénéficie pas. Je trouve que c'est dommage. Et il faut... aussi pouvoir permettre à chacun de trouver ce qu'il souhaite sur nos plages. Donc ça ne sera pas que la Pointe Rouge, il y a déjà les Catalans, et il y aura aussi le parc balnéaire du Prado, qui sera mis en délégation de service public dans le cadre de la réglementation de l'État, c'est-à-dire de la surface de 20% maximum de la surface de la plage. Avant, on avait un domaine public maritime, plage, qui n'était pas géré par l'État. L'État a demandé à la ville si elle souhaitait prendre la concession, nous avons dit oui. Et dans le cadre de la concession, nous exploitons 20% de la surface commerciale. D'autres communes en France ont choisi d'autres solutions, c'est-à-dire de confier à des grands groupes la gestion de la plage. Ça a été le cas à La Baule avec Veolia, ça n'a pas été une réussite. Donc on préfère garder la maintenance.
Allez, on s'éloigne à regret du bord de mer, mais il nous reste 20 minutes et on l'a dit, une élection peut en cacher une autre. Tout le monde le sait, dès le 27, on va être dans la séquence qui va préparer des élections importantes, les élections locales. Et puis on y est déjà, et par exemple... des ambitions et Guy Tessier dont on parlait et on connaît l'importance d'un vote parcours qui dit que il pourrait se rendre utile et être peut-être tête de liste au moins dans son secteur, mais ce qui crée un conflit avec Lionel Royer-Perrot qui était ici même il y a quelque temps et qui lui aussi a cette ambition aujourd'hui maire de secteur. C'est parti, sur ce cas précis, je le disais dans le portrait, il y a des ambitions, des tensions, il y a un risque là d'éclatement, on est dans une phase de succession, est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de votre famille politique sur la ville?
Alors d'abord, toutes les ambitions sont légitimes. Elles doivent être fondées sur une...
C'est prudent, ça. Comme
non, mais attendez. Moi, j'ai de l'ambition, tout le monde en a. Toutes les ambitions sont légitimes. Ceci dit, elles doivent être fondées sur un parcours politique et une capacité à entraîner qui a fait ses preuves. Jean-Claude Gaudin a fait ses preuves, Martine Vassal a fait ses preuves au département, Guy Tessier a fait ses preuves sur le 9-10 depuis des années. Il a encore cette capacité à être effectivement le leader sur le 9-10, il l'a énoncé. Lionel Royer-Perreault a un excellent bilan sur le 9-10, c'est vrai, il travaille beaucoup, et donc il faudra que nous décidions de qui pourra conduire la liste. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui décide lui-même de conduire la liste.
Il y a eu un comité, il a monté un comité de soutien, vous en faites pas partie apparemment.
Non, mais
Agnès Karadec en fait partie.
Je sais pas si elle en fait partie. J'ai vu qu'elle était à sa soirée. Moi, je pouvais pas. J'étais sur une présentation d'un documentaire d'un de vos confrères télévisuels, France 3 pour pas le nommer, sur la Méditerranée, la biodiversité en Méditerranée.
Mais est-ce que vous souhaitez en faire partie?
Non, je ne souhaite pas en faire partie parce que j'estime qu'au moment de la décision, il faudra que j'ai mon libre arbitre. Et je ne veux pas faire partie d'une...
Votre choix n'est pas déjà fait. C'est Guy Tessier, non? Je me trompe?
Moi, Guy Tessier, vous savez, je travaille avec lui depuis 1992.
Vous avez été son attaché parlementaire.
Effectivement, je lui ai succédé en 2001 au conseil départemental et j'ai été son premier adjoint à la mairie de secteur. Et j'ai toujours une amitié et je l'aurai sans doute tout le temps vis-à-vis de Guy Tessier. Parce qu'il a été aussi celui qui a créé le parc national et c'est pas neutre. Donc, effectivement, Guy Tessier, je considère que de mon point de vue personnel, mais aussi sur sa capacité d'entraînement politique et sur sa capacité d'avoir le soutien de l'ensemble des leaders de la droite marseillaise, est sans doute celui qui doit conduire la liste. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Guy Tessier conduit la liste, il a exprimé ses ambitions et il n'y a aucun souci pour que Lionel Royer-Perreault, s'il est sur cette liste, puisse devenir le maire de secteur, renouveler son mandat de maire de secteur, si nous gagnons les élections. La question se pose pas pour moi. Je vois pas pourquoi il y a cette volonté d'exister, de dire il faut que je prenne la place, et pour prendre la place, il faut que je sois tête de liste. Bah non, ça se passe ailleurs, dans le 6-8, dans le 11-12, et je vois pas pourquoi dans le 9-10, ça serait pas de la même façon.
Bon, alors il y a un autre sujet, au moment où on enregistre cette émission, il y a Bruno Gilles qui présente à la presse son projet pour une nouvelle gouvernance à Marseille. Il est candidat pour être maire de Marseille. Il est le patron de LR dans les Bouches-du-Rhône, votre parti. Et il dit, c'est pas Mélenchon, donc il dit, c'est Bruno Gilles, il faut une nouvelle gouvernance à Marseille. Au moins sur alors, deux choses, sa candidature peut-être, et puis ce constat sur la gouvernance et la nécessité de faire du nouveau.
Bien sûr qu'il faut une nouvelle gouvernance, en tout cas une gouvernance sans doute en phase avec 2020, enfin dans les années 2020. Entre 1995 et 2020, on a beaucoup évolué en termes de sentiment d'appropriation.
Vous reniez le bilan ou vous critiquez le bilan, vous l'écorchez?
Non,
vous...
je ne critique pas le bilan parce que je trouve que de là où on est parti et de là où on a fait beaucoup de choses. Et quand on fait beaucoup de choses, on ne peut pas faire que des choses bien. Moi, je connais personne qui, dans sa vie, sur une période de 25 ans, a fait que des choses bien. Donc, c'est sûr qu'on n'est que des êtres humains, et à gauche et à droite, d'ailleurs. Hein. Et donc, on peut se tromper. On peut trouver des choses qui sont moins bien faites qu'ailleurs, mais on a fait beaucoup de choses qui ont fait avancer cette
ville. On a un peu de mal à comprendre, et peut-être les Marseillais ont du mal à comprendre aussi, comment on peut à la fois dire qu'il faut faire une nouvelle gouvernance et dire que la gouvernance des 25 dernières années ne pose pas problème.
J'ai pas dit qu'il fallait faire une nouvelle gouvernance parce que ça posait problème avant. Je veux dire, chaque époque a sa gouvernance, très clairement. Je pense qu'on aurait dû évoluer bien avant dans cette municipalité sur une gouvernance modernisée.
Gaudin est un homme du passé, c'est ça?
Non, il est l'homme de son époque. Et je pense que les candidats qui se présentent là en 2020 seront les hommes et les femmes d'une autre époque.
Un exemple peut-être de ce qui devrait être nouveau dans la gouvernance, de ce qu'il faudrait initier.
Je pense que, je l'ai déjà dit d'ailleurs chez un de vos confrères de la presse écrite nationale, nous avons au conseil départemental montré que nous avions une gouvernance collégiale, beaucoup plus collégiale que ce qu'elle existe à la mairie de Marseille. Je l'ai dit, je le redis, c'est le cas. Et quand on est plusieurs à discuter d'une décision, qu'on la prend collégialement, il y a des choses qui, effectivement, font débat. Et quand il y a un débat, et plus le débat est ouvert, plus je pense on trouve les solutions les plus appropriées à une difficulté ou à un projet. Donc voilà, si je devais avoir un exemple de gouvernance, c'est celui que nous appliquons au conseil départemental sous la présidence de Martine Vassal.
Bon, allez, c'est pas très nouveau, ça date de 2013, mais c'est une année importante pour vous, on le disait, dans votre parcours. Et c'est Guy Tessier qui a été très colère à l'époque, vous me voyez venir, hein, c'est Valeur Actuelle, son interview. Et il dit « Tout dysfonctionne dans cette ville, on assiste malheureusement à la fin du règne de Jean-Claude Gaudin, qui n'a jamais été un homme d'entreprise, il est assis dans son fauteuil, il ne veut pas en bouger. La seule force qui le meut, c'est sa volonté de se maintenir au pouvoir, il est temps qu'il passe la main. Cette ville s'enfonce, etc., etc., etc. »
2013.
Oui.
Vous souscrivez à ce propos?
Je laisse les propos à Guy Tessier. Il a sans doute plus de capacité à juger la façon dont a été gouvernée la ville que moi. Moi, tout ce que je souhaite dire, c'est que à chacun son époque, et que la municipalité de Jean-Claude Gaudin, quelle qu'elle soit, elle a fait émerger des personnalités, elle a fait émerger des porteurs de projets, que sont par exemple Yves Morin, que sont Laure Agnès Caradec, d'autres qui, et moi-même d'ailleurs, Lionel Royer-Perrot par exemple, et d'autres maires de secteur, qui sont là et qui ont pu s'exprimer. Et qui ont pu faire avancer des choses. Enfin, vous croyez que quoi, le parc national, quand j'avance des projets, je fais pas référence au chef de la municipalité qui est Jean-Claude Gaudin. Voilà, on a un rapport qui est bilatéral avec le maire, très clairement. Je pense qu'il faudrait qu'il soit plus collégial. Et c'est ça la nouvelle gouvernance, je pense.
Michel.
Bruno Gilles, on l'a un peu oublié, on a bifurqué. Sa candidature, sa campagne, son ambition, pour vous, elle est légitime? Ou alors, comme d'autres, vous pensez, soit on va parler clairement, hein, il nous reste 10 minutes, vous pensez que Martine Vassal, beaucoup le disent, serait une meilleure candidate?
D'abord Renaud Muselier.
Mais je répète ce que j'ai dit, toute ambition et donc toute candidature est légitime. Je veux dire, quand il y a une compétition électorale, tous les candidats sont présents. Pour être candidat de sa mouvance politique, il faut d'abord l'annoncer. Bruno Gilles l'a annoncé très tôt. Bah, c'est son choix. Sinon stratégique, au moins tactique. Martine Vassal ne l'a pas annoncé. Renaud Muselier, je ne sais pas. Bon, tout le monde sent bien que Martine Vassal est quand même dans les starting blocks. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a su montrer dans une institution, vous avez dit séculaire, mais importante sur ce territoire, puisqu'il investit quand même 500 millions d'euros par an, 2,5 milliards de budget. Et sur la métropole, c'est à peu près l'équivalent. Elle a su montrer qu'il y avait une détermination, une capacité d'entraînement, de mobilisation des élus autour de ces projets, qui est forte et qui permet de faire avancer notablement et très notablement un certain nombre de sujets comme les transports et d'autres sujets que je pourrais évoquer à loisir.
Une question sur le budget, parce que c'est votre dossier, et puis on parle de Martine Vassal, mais il y a quand même un phénomène majeur, c'est-à-dire c'est celui de sous sa gouvernance et de l'endettement d'un département qui ne l'était pas. C'est un choix politique. On peut parler d'investissement si vous voulez, mais il y a 300 millions sur 3 ans du CD13 par exemple qui sont prévus pour la métropole, avec une espèce de report, hein, de certaines sommes vers Marseille, vers la métropole, l'institution qui est en train de prendre. Mais ça a un coût, c'est-à-dire cet endettement. Ça vous paraît une bonne idée? J'imagine. Mais c'est vous qui mettez en œuvre cette politique.
Il faut bien se dire que depuis 2010...
Pour un libéral, il n'y a pas une crainte, oui. Là. Il n'y a pas un écart.
Vous êtes un orthodoxe sur la dépense publique. Hein.
Oui, mais sur la dépense publique.
Il y a de l'emprunt, là.
Mais pas sur l'investissement productif. Et l'investissement que nous faisons en termes de productivité sur ce territoire, de métropole et de département, c'est qu'on ne peut pas nous dire, d'un côté, il n'y a pas assez de transport, et quand des collectivités investissent sur les transports, alors là, vous vous endettez. D'abord, le département était très peu endetté. Deuxièmement, depuis 2017, on est quand même dans une logique de fusion de la métropole et du département. Nous nous mettons dans cette logique et nous sommes acteurs de cette logique-là. On sait que ce département a des difficultés en termes de mobilité. Il faut investir dessus. Que ce département a des difficultés en termes d'aménagement. Il faut permettre d'avoir de l'activité et de la richesse supplémentaire sur ce département métropole. Nous sommes dans cette logique de fusion. Et donc, c'est vrai, le département investit beaucoup et il va encore investir beaucoup plus, je vous le dis. On va s'endetter encore un peu plus. Mais toutefois, si vous regardez nos dépenses de fonctionnement, elles ne progressent pas extrêmement rapidement. Le préfet nous avait fixé, dans le cadre du contrat de Cahors, un maximum d'1,2% de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Nous avons refusé de signer ce contrat pour garder notre autonomie et notre liberté de gestion dans le département. On a dépassé le 1,2 de seulement 2 millions d'euros, alors qu'il nous était annoncé que nous allions dépasser de 15. Voilà la bonne gestion.
Là, on n'assiste pas quand même à une personnalité qui a des ambitions, de fortes ambitions, qui est en train de tirer sur un budget pour se positionner sur le marché électoral.
Bon, je pense que quand on investit sur des moyens de transport qui verront le jour ou des infrastructures qui verront le jour d'ici 5-6 ans, on n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans le clientélisme, on est dans la volonté de réussir ce territoire, ce que beaucoup n'ont pas fait, notamment au département, depuis 30 ans. Je veux dire, c'est sûr, on peut gérer une institution avec pépère, hein, en se disant on n'emprunte pas beaucoup, on gère avec ce qu'on a, etc. Mais ça manque d'avenir. Pour que l'avenir soit plus acceptable pour nos concitoyens, il faut que nous ayons des projets. Et ces projets, ça se finance avec des investissements. Et c'est vrai, quand même des recettes qui sont dynamiques au département, les droits de mutation, la taxe foncière, dont nous n'augmentons pas le taux, et des emprunts. C'est ce que vous faites chez vous. Enfin, peut-être pas vous, mais c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire que quand ils veulent investir pour l'avenir, s'acheter un appartement, s'acheter une maison, s'acheter une voiture, alors, ils empruntent. Et nous empruntons dans un cadre qui est raisonnable.
Permettez-moi de vous citer, c'est sur nos confrères de Mars Actu, c'était en 2018, donc c'est une éternité, un an. Ça va vite. Hein. Et vous disiez, il faut comprendre que l'histoire du chef qui décide tout du haut de sa tribune, ça a fonctionné avec Jean-Claude Gaudin, mais ce n'est plus possible. Il faut tenir compte de l'état d'esprit de l'électorat qui ne veut pas d'un homme ou d'une femme seule. Alors Martine Vassal, présidente du département, présidente de la métropole, qui veut présider Marseille, est-ce que c'est pas trop pour une seule femme? Est-ce qu'on n'assiste pas justement à ce que vous dénonciez il y a un an, c'est-à-dire à la personnification extrême du pouvoir, à un moment où on le rappelait en début d'émission, il y a cette volonté de renouvellement, on veut pas de cumul, de mandat, on veut...
Alors,
Bruno Gilles,
concernant cette déclaration, je l'ai dit à Mars Actu, je l'avais dit en parallèle au Monde. Et le Monde a rajouté ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la décision et la prise de décision avec Martine Vassal était beaucoup plus collégiale. Ça, c'est pour compléter l'insertion de Mars Actu, d'ailleurs, qui était très fidèle dans les déclarations que j'ai pu faire. Ça m'a valu quelques reproches, mais je les assume et puis je les encaisse, il n'y a pas de problème. Martine Vassal, elle a la présidence du département. Il y a une métropole qui s'annonce être fusionnée avec le département. Elle est présidente de la métropole. C'est Jean-Claude Gaudin, d'ailleurs, qui l'a largement facilité son accession à la présidence. Et donc, il faut qu'on unifie les politiques publiques de ces deux départements, de ces deux collectivités. Je vais vous donner un exemple. Martine Vassal, elle est certes la présidente, mais sur l'environnement, dont elle m'a confié la délégation il y a 3 mois, elle a décidé de créer un comité de pilotage, on va dire ça comme ça, commun aux deux institutions. Avec Alexandre Galaise, nous allons piloter les politiques publiques de l'environnement, de la métropole et du département ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Donc vous dites qu'on concentre tout sur la même personne, sur une même institution, c'est plus efficace, ça va être plus performant.
En tout cas, c'est pas nous qui concentrons, on nous a dit qu'il faut fusionner métropole-département. On s'inscrit dans ce mouvement-là, on sait qui va arriver.
Alors pourquoi la mairie en plus?
Pourquoi la mairie? Voilà, c'est la question. Pourquoi la mairie en plus? S'il y a la métropole et le département qui vont fusionner, ça fait déjà énormément de travail. Est-ce que c'est la personne idoine pour se présenter également à la mairie?
D'abord, aujourd'hui, elle n'est pas candidate annoncée. Je ne sais pas le timing qu'elle s'est fixé. Je ne sais pas la configuration dans laquelle elle se présentera. Si elle se présente, est-ce qu'elle se présentera seule? Est-ce qu'elle proposera un ticket avec
tout
qui?
Tout le monde présente un ticket. C'est le projet d'une élection.
Pas forcément. Vous présentez une candidature, par exemple, ticket entre métropole et ville de Marseille. Ça va ensemble. Puisque ce seront encore les conseillers municipaux fléchés qui voteront pour la métropole en 2020. Donc, c'est logique.
Et la fusion en 2021, logique. On le rappelle.
Voilà. Hein. Enfin, 2021, pour
peut-être.
L'instant. Pour l'instant, on a strictement zéro.
Mais
zéro.
L'effet cumulard, ça ne vous gêne pas?
Non, moi, ça me
gêne. En même temps, vous êtes aussi un cumulard. Hein, adjoint au maire pour les questions liées à la mer, adjoint au maire pour ce qui est du budget, adjoint à la présidente du CG13, président du parc national des Calanques.
Oui.
C'est un mode de fonctionnement, là, on a l'impression.
En même temps, il y a une logique. Je suis adjoint au littoral de la ville de Marseille, vice-président
logique.
À l'environnement,
cumul,
le parc national, je suis aussi à l'agence de l'eau, je suis au conservatoire du littoral. Tout ça confine à la biodiversité. Bref, il est une tradition dans ce pays, c'est que effectivement, on ait des capacités à accumuler deux postes de responsabilité dans deux collectivités. Voilà. Après, il y a une question d'efficacité. C'est vrai que c'est plus facile de faire avancer un certain nombre de dossiers, très clairement.
Bon, l'émission va bientôt arriver à son terme. Un mot quand même. On est à 6 mois après les événements de la rue d'Aubagne, avec leur mort. On est toujours avec beaucoup de monde. Touché par les conséquences du dossier du logement insalubre, avec toujours 2500 personnes qui ont été évacuées aussi de chez eux, et encore plusieurs centaines de personnes qui sont logées à l'hôtel et qui d'ailleurs craignent que pendant la période estivale, ils ne puissent pas y rester pour laisser place aux touristes. Il y a des états généraux organisés par certains collectifs qui vont être programmés au mois de juin. C'est un climat particulier. Un mot là-dessus, même si ce n'est pas votre dossier.
C'est vrai que ce n'est pas mon dossier, je ne rentrerai pas dedans parce que je ne suis pas vraiment qualifié pour le faire.
Mais ça marque la fin de cette mandature.
Je pourrais dire des bêtises, bien sûr, que ce drame est absolument catastrophique pour les familles et tous ceux qui ont perdu la vie. Et puis, il marque la fin de ce mandat de façon très triste. Mais je pense que vous sous-estimez les uns et les autres... la façon dont ça a pu nous marquer. Je veux dire, on fait pas de... On n'a pas un événement comme celui-ci sans être marqué. Voilà. Et quand on est responsable dans une ville, dans un département, dans une métropole, on a quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. À quel niveau ? Je n'en sais strictement rien, je ne vais même pas vous parler de responsabilité.
Mars Actu a sorti du rapport d'expertise bien qui sûr. Permet de lever des zones d'ombre quand même. Le manquement des propriétaires y est signalé, celui des services de prévention également.
Alors,
c'est le problème de la gestion de la ville, c'est ça, ça va être ça le sujet.
C'est d'abord un problème de gestion de son droit de propriété. Voilà. Et le droit de propriété, il est consubstantiel à l'exercice de l'activité économique. Voilà. Mais on doit être, nous, collectivité, État, irréprochable sur les obligations qu'apporte la gestion d'une propriété. Et là, honnêtement, on n'a pas été bon. Très clairement. Vis-à-vis des propriétaires, et l'État, et je pense les collectivités, doivent être beaucoup plus marquants sur les obligations légales vis-à-vis de la propriété. Ensuite, les différentes responsabilités des uns et des autres sur la façon dont a été géré les droits, les périls, etc. Je ne m'engagerai pas dessus parce que franchement, je ne suis pas un spécialiste et je dirais des bêtises.
D'accord. Dernière question.
Hier,
Michel.
Une conférence de presse de Martine Vassal sur les questions de tourisme, etc., a été perturbée par des habitants, des collectifs qui l'interpellaient sur la signature d'une charte du relogement. Face à ce type de manifestation, vous vous dites c'est excessif, ça ne devrait pas avoir lieu. Vous comprenez l'exaspération, la colère, le sentiment que les réponses ne viennent pas assez vite d'un certain nombre de personnes impliquées dans le dossier.
Bon, je pense que d'abord, on ne peut pas faire le reproche à Martine Vassal de ne pas être impliquée. Et à la métropole et au département, on a pris des décisions et mis des crédits sur un certain nombre de sujets qui sont extrêmement importants. Qu'elle a tout de suite mandaté des collègues pour pouvoir gérer ce dossier. Ça ne va pas assez vite. Oui, et c'est sûr que pour les gens qui sont dans la difficulté, ça ne va jamais assez vite. Par contre, ce que je dénonce aussi, c'est l'exploitation politique de certains sur ce sujet-là qui ne devrait pas avoir lieu.
Dernière question, Didier Réau. Tiens, une question un peu plus directe. Vous avez trois de vos collègues qui louaient des taudis insalubres. Vous, d'abord, première question, vous n'en avez pas des taudis insalubres à louer avant qu'on le découvre
Non, j'ai que ma maison et voilà.
Vous dites quoi à ces gens-là, vos collègues, qui siègent toujours avec vous au conseil municipal ou au département?
Je dis que... là aussi, il y a l'exercice d'un droit de propriété. Les trois cas que vous citez sont différents. Ben, il y en a même quatre, hein, si je crois bien.
Sur Aubagne, pas la rue.
Non, non, mais il me semble qu'on en a quatre.
Il y a une constante, il touchait de l'argent en louant des taudis.
Très clairement. Après, il faudra faire la part des choses sur le niveau de péril et à quel endroit se situait le péril sur un certain nombre chaque cas est différent.
Mais vous, Didier Réau, si vous étiez maire, vous leur auriez enlevé leur délégation?
Ben, d'abord, ça a été le cas. À la mairie de Marseille, la délégation a été retirée et
donc, je crois qu'il y en a...
Les délégations, oui, mais pas les mandats.
Pas les mandats.
Pas les mandats, ouais.
Vous l'auriez fait ?
Mais le mandat, il se fait que par la démission. Voilà.
Didier Réau, je vous remercie. Allez, bonne journée, on se retrouve le mois prochain. Bye.
Merci.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.